J'invite notre dernier conférencier, Lionel Richard, à nous rejoindre, qui va conclure cette journée et nous redonner les linéaments spirituels du Bauhaus. Je vous demande d'applaudir notre traductrice qui vous avait fait un travail très inspiré de remise en vie des paroles. Merci beaucoup. Je ne connais pas votre nom, mais voilà, nous vous remercions collectivement. Alors, Lionel Richard, vous êtes professeur émérite de l'université de Picardie Jules Verne. Vous avez documenté les pages les plus tragiques de l'histoire culturelle du XXe siècle, à commencer par plusieurs livres de référence sur l'Allemagne et la culture allemande, parmi lesquels « La vie quotidienne sur la République de Weimar » ou encore « Nazisme et barbarie ». Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'encyclopédie du Bauhaus en 1986 et « Comprendre le Bauhaus » en 2009. Mais vous êtes aussi une voix poétique dès vos premiers écrits, une voix familière à tous ceux qui ont aimé le panorama de Jacques Duchâteau sur France Culture, une voix incisive, précise, inquiète, passionnément en quête de vérité. Vous avez choisi de nous parler de la pédagogie du Bauhaus aujourd'hui, qui reste à bien des écarts révolutionnaire.
Merci. Je
vais... Voilà. Bon, très bien. Ce matin, à l'ouverture de cette journée, un extrait du Mont Carmel d'Amos Iktay a été lu. Et si vous avez pu remarquer, il y a deux références majeures qui sont apparues. La première, c'est justement à la généalogie, sa généalogie, son père. L'autre, c'est le pays même de la terre promise, c'est le territoire. Au fond, toute cette journée a montré, je crois, qu'il y a deux éléments essentiels dans l'œuvre d'Amos Iktay. C'est l'héritage à partir d'une généalogie et d'autre part, l'insertion dans un territoire, cette terre promise, avec toutes ses contradictions. Et l'architecture est un peu ce qui fait la synthèse de ces deux éléments, puisque le père était architecte et que la Palestine de l'époque, il a fallu la changer continuellement. Comment ? Par la construction, par l'architecture. Et dès maintenant, je veux dire, cela a été évoqué, mais Munio Weinraub, le père d'Amos Iktay, a joué un rôle immense dans la construction de cette Palestine qu'il fallait rendre vivable pour les immigrants qui arrivaient. Ce n'est pas un hasard, il s'installe à Haïfa, grand centre industriel, où la Confédération des syndicats joue un rôle considérable dans tous les domaines, l'Istadrout. C'est parce qu'il devient l'architecte principal qui a des contrats donnés par l'Istadrout qu'il va devenir quelqu'un comme architecte qui va réaliser absolument dans tous les domaines. Voilà qui a été montré, la diversité justement des constructions réalisées par Munio Weinraub. Maintenant, il faut que je revienne sur justement la carrière de Munio Weinraub. Parce que quand on parle du Bauhaus, on parle de n'importe quoi. On parle d'un thème publicitaire. En 2015, devant le Parlement allemand, il a été question de la célébration de la fondation du Bauhaus il y a 100 ans. Pour obtenir des crédits. Et qu'est-ce qui a été dit lors justement de la justification à cette célébration au Parlement allemand ? Il a été dit, c'est le thème, c'est le produit culturel le plus porteur pour l'Allemagne. Ce qui veut dire que le mot Bauhaus ouvre des perspectives internationales. Et on a créé en Allemagne un parcours initiatique au Bauhaus, allant dans tous les endroits où le Bauhaus avait existé. Pour montrer quoi ? Pour montrer les formes, essentiellement, créées à partir du Bauhaus. C'est-à-dire pour donner dans un intérêt esthétique et non pas montrer ce qu'un architecte qui a été à l'origine de la création de l'Institut de l'Environnement et qui s'appelle Claude Schneid appelait justement les questions embarrassantes devant le Bauhaus. Qu'est-ce que c'est que ces questions embarrassantes ? Bien sûr, le Bauhaus, son intérêt, c'est qu'il s'inscrit très exactement dans la durée de la République de Weimar. Son origine, son père, c'est un architecte, mais un architecte qui a été formé avant 1914 comme un ingénieur de la construction. Il est le père, l'un des pères en tout cas, des maisons standardisées, avant 1914. Et subitement, en raison de la guerre, en raison des transformations qui s'opèrent en Allemagne, il change de cap. Il s'aperçoit que l'ingénieur de la construction, ça ne veut pas représenter grand-chose quand la société change. Il y a tout un groupe d'architectes qui veut réhumaniser l'architecture, donner à la formation d'architectes une véritable universalité. Quitter le domaine du spécialiste scientifique que devenait l'architecte pour devenir quelqu'un qui connaît toutes les disciplines de l'architecture. Donc il va créer cette école. Il est l'inventeur du mot Bauhaus. Le mot Bauhaus n'existe pas avant lui. Il s'appelle Walter Gropius, cet architecte, donc, et il crée le mot Bauhaus, que vous trouvez maintenant pour certains magasins de construction répandus partout. J'ai eu la surprise de voir même qu'à Mexico, il y a un grand magasin qui est un magasin de matériaux qui s'appelle Bauhaus. Ça veut dire tout simplement la maison de la construction. Pourquoi prend-il ce mot ? Il le prend en référence à ce qui, à l'époque de la construction des cathédrales, s'appelait la Bauhütte, la cabane où les constructeurs de cathédrales allaient ranger leurs affaires. Mais c'était en même temps un bâtiment symbolique. Donc, si vous voulez, la référence de Gropius, c'est la référence à une construction qui devient spiritualité parce qu'elle correspond aux besoins d'un peuple. Quand il crée le Bauhaus à Weimar, il réunit deux écoles, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts. Et il va fonctionner comme ça à Weimar pendant quelque temps, jusqu'au moment où plus rien ne va fonctionner du tout, parce que, évidemment, les artistes patentés, l'art, ne peut pas s'entendre avec, justement, la construction, l'idée de former des connaisseurs de tout ce qui est nécessaire pour construire des bâtiments nouveaux. Donc, si vous voulez, le Bauhaus, à son origine, c'est la Révolution. C'est la Révolution avortée en Allemagne. Dites-vous que quand il s'ouvre à Weimar, la constitution de Weimar n'existe pas encore. Il s'ouvre en avril 1919, et la constitution de la République de Weimar va être votée par les députés à deux pas au théâtre de Weimar en août 1919. Bon, alors quand on parle du Bauhaus, de quel Bauhaus on parle ? Est-ce qu'on parle de celui-là, de celui de Gropius ? Parce que Gropius, pendant toute une phase, avec les contradictions qui vont naître et les difficultés, il va essayer de faire fonctionner ce Bauhaus jusqu'en 1925. Alors, quand on parle du Bauhaus, on parle d'un établissement qui n'est pas une école d'art, qui n'est pas une école d'architecture, qui a connu 3 directeurs, qui a connu 5 phases de fonctionnement et qui a été fermée par 3 fois pour des raisons politiques. Donc le Bauhaus de Gropius, il est fermé à Weimar en 1925. On est passé, il a été question de l'artisanat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'artisanat? Est-ce que c'est la production artisanale? L'idée de Gropius, c'est de dépasser la production artisanale à travers, justement, le fonctionnalisme. Qu'est-ce que c'est, le fonctionnalisme? C'est produire des objets dont les formes sont parfaitement adaptées à leur fonction. Pour que ces formes soient adaptées à leurs fonctions, il faut dépasser l'artisanat, parce qu'il n'y a pas de possibilité de produire des objets en quantité. Donc, il faut, pour industrialiser cette production d'objets, passer par des machines. C'est le premier conflit dans lequel se trouve Gropius. Comment produire des objets, parce que c'est une école destinée à produire des objets usuels. L'architecture doit venir au bout, tout au bout, c'est le couronnement. Une fois que tout aura été, par la pédagogie, assimilé par les élèves, ils pourront prétendre à l'architecture. Il n'y a pas d'enseignement d'architecture au Bauhaus jusqu'en 1927. Il part en 1925. Le Bauhaus est fermé. On lui propose d'ouvrir ce Bauhaus dans une ville industrielle, 80 km de Berlin, Dessau. Il propose, lui, quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que l'école soit construite par lui-même et qu'en même temps, il développe éventuellement un programme de construction. Le maire de Dessau, qui est un libéral, accepte. En 25, il déménage parce que tout simplement la municipalité de Weimar est devenue réactionnaire et elle exige que ces trublions de l'école, qui sont des originaux, qui se promènent dans la ville de façon pittoresque, hein, avec des vêtements hérités de la guerre de 14-18, et évidemment ça fait scandale tout ça. Il faut fermer le Bauhaus. Donc il accepte cette proposition du maire et en même temps, le programme à Dessau n'est pas complètement terminé, les constructions ne sont pas terminées, et ils vont fonctionner dans des locaux qui ne sont pas véritablement caractéristiques, pour véritablement occuper des bâtiments que Gropius a construits en 1926. En décembre 1926, voilà. Ce bâtiment, justement, est assez caractéristique de la nouvelle architecture que veut Gropius, avec des matériaux nouveaux, l'acier, le verre, le béton. On appelle ces bâtiments, pour se moquer d'eux, l'aquarium, parce que c'est transparent. Et tous les ateliers modernes vont exister dans cet établissement de Dessau, c'est-à-dire l'initiation à tous les matériaux nouveaux et la possibilité, il y a une imprimerie, l'affiche se développe et jusque-là, il n'y a pas d'architecture. Gropius est architecte, il y a un cabinet d'architectes qu'il fait fonctionner tout seul, mais il n'a jamais enseigné l'architecture. Alors, quand on parle du Bauhaus comme école d'architecture, on est vraiment dans la fantaisie la plus complète. Il y a un style international qui existe en architecture, dont beaucoup d'architectes vont profiter, dont Gropius bien sûr, mais qui se développe. Le terme même de style international, il est redevable à André Lursa, qui est un architecte français qui a lancé cette idée et qui a organisé une exposition à Nancy en 1931 en parlant de style international. C'est ce style moderne, effectivement, utilisant l'acier, le béton, le verre, avec les gratte-ciels, etc. ce qui va se répéter à Dessau, c'est évidemment que la municipalité va en avoir assez à un certain moment, parce qu'elle est devenue réactionnaire également, avec une majorité de nazis, et elle va vouloir fermer l'établissement. Et à ce moment-là, Gropius en a tellement assez de la paperasserie, de la lutte, etc., qu'il a dû mener, il décide de partir. Mais avant de partir, il va tout de même donner... Il se rend compte que l'architecture devient quand même nécessaire dans la pédagogie et il appelle un architecte suisse qui a appartenu au mouvement coopératif à l'époque, qui est un architecte engagé socialement, qui s'appelle Hannes Meyer, en 1927, et il lui propose d'enseigner l'architecture. Et Hannes Meyer arrive au Bauhaus de Dessau. En avril 1927, il ouvre un cours d'architecture. Pour la première fois, l'architecture est enseignée. Ensuite, il va proposer à Hannes Meyer, parce qu'il ne trouve personne d'autre, il s'adresse notamment à Miss van der Rohe bien avant, pour prendre la direction du Bauhaus, Gropius, mais Miss van der Rohe a son cabinet d'architecture, il refuse, donc il propose à Hannes Meyer de devenir directeur du Bauhaus. Et donc on a la deuxième phase capitale du Bauhaus, où à ce moment-là, l'architecture est enseignée parce que la pédagogie est tout à fait différente. Hannes Meyer, il embauche des scientifiques. Il fait enseigner la résistance des matériaux. Il ouvre complètement le Bauhaus au monde moderne. Il crée un cours de gymnastique. Il n'y avait pas de gymnastique au Bauhaus. Il organise des conférences de toutes sortes, dont le cinéma, parce que Béla Balash, par exemple, historien du cinéma, va venir faire des conférences. Il organise l'atelier de photographie. Peter Hans, grand photographe, devient spécialiste de l'atelier de la photographie, à un atelier de photographie. Il embauche un autodidacte devenu très important parce qu'il a collaboré aux revues, qui s'appelle Ludwig Hilbersheimer et qui est le père de l'urbanisme. Urbaniste en français, ça ne veut rien dire, c'est la ville, c'est la construction adaptée à la ville, c'est la ville adaptée aux constructions nouvelles. Mais en allemand, c'est bien plus précis, c'est Stadtplaner, programmeur de la ville. Donc c'est capital. Les programmes, il y a un prospectus qui existe, venez au Bauhaus. Et tout cela est énuméré avec la pédagogie. Alors, c'est extrêmement précis, les cours du programme développé par Hannes Meyer. Vous avez 2 ans, vous avez un semestre qui est constitué en un cours préliminaire. C'est là où l'artisanat, d'un bout à l'autre du Bauhaus, va jouer un rôle. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'artisanat ? Ce sont des artisans qui expliquent aux élèves comment utiliser les matériaux. Et donc, c'est une familiarité avec le matériau. Et ensuite, les élèves peuvent choisir un atelier, savoir où ils vont se diriger, vers l'atelier de papier, vers l'atelier du bois, vers l'atelier de métal, etc., selon leur disposition. C'est donc absolument une acquisition fondamentale. Hannes Meyer n'est pas revenu là-dessus. Mais ensuite, deux ans dans les ateliers, de travail d'atelier en rapport avec la construction. Et 2 années terminales pour la construction. Et c'est quelque chose de formidable qui n'existe pas dans les écoles d'architecture encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les élèves participent au chantier directement. Il y a donc un travail collectif qui est fait. Mais voilà, Hannes Meyer, il a c'est vous dire quand même, à travers le nombre d'élèves qu'il a, quand il arrive en avril 1927, eh bien l'architecture ne représente rien. Il a 10 élèves en architecture, au département d'architecture, 10 élèves. Alors, on ne peut pas dire que le Bauhaus était une école d'architecture. Bon. Il en a une vingtaine quand il s'en va. Pourquoi il va s'en aller? Mais parce qu'il y a une cabale contre lui. Dans la mesure où on le fait, lui, il se prétend marxiste, mais on le fait passer pour communiste et pour agitateur communiste à l'intérieur du Bauhaus. Et comme la municipalité est réactionnaire, et comme les artistes se trouvent lésés, parce qu'ils disent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui règne au Bauhaus, Kandinsky va être l'un des animateurs du renvoi de Hannes Meyer. Et Hannes Meyer, on lui dit, il vous faut partir maintenant parce que le Bauhaus est en train de se désagréger. Il refuse, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'est pas coupable. Il reçoit la lettre en août 1930, vous êtes limogé. Qui prend la relève? Troisième période du Bauhaus parmi les directeurs, c'est Mies van der Rohe. Et Mies van der Rohe, c'est un architecte qui vient justement du côté des ingénieurs de la construction. Il va transformer l'école. D'abord, il va renvoyer tous les élèves qui sont politiquement indésirables, et qui ont mauvais esprit, et il va faire signer une lettre à tous les élèves au moment où ils entrent au Bauhaus pour s'engager à n'avoir aucune activité politique. Mais regardons la pédagogie maintenant, Mies van der Rohe, eh bien, il va faire une pédagogie de spécialiste. Construire pour construire. Et tout le programme est là. Et il réduit la durée de l'enseignement. La durée moyenne du cursus des élèves sous Hannes Meyer est de 8 semestres. Comme Mies van der Rohe est fidèle au nouvel esprit public en Allemagne, eh bien, il a besoin d'économie en tout. Il va supprimer des postes et il va réduire le cursus à 6 semestres. Il va essayer de tenir le coup. Jusqu'au moment où la municipalité va faire la même chose, va lui dire « mais non, mais c'est pas possible ». D'ailleurs, le bâtiment du Bauhaus est très mal construit, la terrasse prend l'eau. Il faut le fermer, c'est très, très, très dangereux. Et Mies van der Rohe, avec des indemnités, va partir. Il va ouvrir une dernière école qui n'a que le nom. À Berlin, d'où ce fameux parcours Weimar au Berlin, où Berlin, ça n'a plus aucun sens du tout, parce qu'il n'y a plus d'ateliers, les professeurs ne sont plus là, qui étaient, ils sont presque tous partis. Voilà, schématiquement, c'est ça. Donc, quand on se réfère au Bauhaus, il faut savoir à quoi on se réfère. Et j'en viens maintenant à la carrière de Muño Weinraub. Il est originaire d'une ville de la Silésie, d'une bourgade de la Silésie polonaise. Il a 18 ans, il n'a pas de diplôme, parce que la nouveauté du Bauhaus, il faut bien le dire, c'est qu'on y entre sans diplôme, on présente un dossier. Et ce détail est connu d'un certain nombre, jusque dans les pays de l'Est, d'un certain nombre d'élèves qui ont voulu justement aller étudier l'architecture ou la construction, tous les métiers de la construction. Tous les métiers de la construction. Et Muño Weinraub a certainement connaissance de cette manière-là par le mouvement social et politique auquel il milite. Et il arrive au Bauhaus, il est reçu par Hannes Meyer, avril 1927. Mais Hannes Meyer trouve que quand même ses connaissances, il n'a pas un dossier consistant. Donc il lui dit, travaillez dans un atelier et vous revenez nous voir après. Muño Weinraub va étudier pendant 6 mois dans un atelier d'ébénisterie à Berlin. Un an après, il revient. la commission, les deux enseignants qu'ils reçoivent, acceptent qu'ils entrent maintenant au Bauhaus. Il devient élève du Bauhaus. Donc, il va faire là, et c'est capital, deux semestres avec Hannes Meyer, sous la direction de Hannes Meyer. Maintenant, le Bauhaus, c'est une communauté de travail, mais c'est une communauté sociale où l'on discute de tout. Et évidemment, il y a une activité politique intense sous la République de Weimar, et la plupart des élèves sont politisés. Donc, il y a effectivement une cellule communiste qui existe, qui a même un petit journal. Et à un certain moment, si vous voulez, il y a des manifestations. Et Muñoz Weinraub est pris dans ces manifestations, bon, et il est renvoyé du Bauhaus. Mais comme ce n'était certainement pas un mauvais élément, Miss Van der Rohe lui propose d'aller 6 mois, un semestre, préparer l'exposition qui doit avoir lieu du Bauhaus, comment habiter, hein, sur l'habitation, à Berlin. Et il va travailler là, dans l'atelier de Miss Van der Rohe, pendant 6 mois. Ensuite, il va revenir au Bauhaus. Il va encore faire un semestre, mais seulement, qu'est-ce qui va se passer ? 1932, c'est une année très agitée. Et les élèves sont de plus en plus politisés, et ils protestent notamment, il y a des réunions à la cantine, ils protestent notamment contre l'autorité de Miss Van der Rohe, et ils refusent de participer, enfin, c'est un mouvement, tous ne refusent pas, mais tout un groupe, à la cantine notamment, organise une manifestation pour ne pas participer à l'exposition des travaux d'élèves de fin d'année. Et Miss Van der Rohe en profite évidemment, là encore, pour faire son tri. Et en mars 1932, Weinraub, cette fois, eh bien, il fait partie de la charrette. Et il va aller donc étudier. En octobre 1932, le Bauhaus, d'ailleurs, va être fermé, je vous l'ai dit. Puis alors, il va aller étudier où ? À l'Institut des arts appliqués de Francfort. Il va retrouver, d'ailleurs, quelques amis d'anciens élèves du Bauhaus, jusqu'au moment aux manifestations contre les nazis, où il distribue avec un copain des tracts, et il est mis en prison. Libéré quelques mois après, il va passer en Suisse et il va arriver où ? À Haïfa, en 1934. Et ce n'est pas, je l'ai dit au début, hasard. C'est-à-dire, sa chance est de s'établir dans une cité industrielle qui a besoin justement de construction avec un syndicat très fort et il fait cette carrière d'architecte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a tiré de son enseignement au Bauhaus? Je crois que c'est fondamental parce que Hannes Meyer, lorsqu'il a pris la direction du Bauhaus, il a fait un manifeste qui s'appelle Construire, Bauen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il leur donne la définition de la construction. Construire, c'est la mise en forme de tous les processus de vie. Construire, c'est organiser socialement, techniquement, économiquement, psychiquement, les processus de vie. Ce qui veut dire que, pour lui, toute construction est soumise à des conditions qui ne sont pas uniquement techniques. Il faut tenir compte des circonstances, des lieux, de la topographie, des conditions de luminosité, d'hygiène, etc., qui sont à assurer à la construction en question. Et je crois que c'est un principe fondamental que Muñoz Weinraub va assimiler. Et ce qui veut dire que on est là pour satisfaire des besoins populaires. Quand on parle, par exemple, de tous les objets qui ont été créés, effectivement, dans les divers ateliers du Bauhaus par des personnalités très fortes, comme Marcel Breuer, par exemple, pour les meubles, etc., quand on parle de ça, on pense à des formes uniquement. Mais il s'agit de penser que ce sont des modèles qui ont été créés pour l'industrie. Aujourd'hui, on trouve ces fauteuils à un prix fou, alors qu'ils étaient, au départ, pensé comme modèle à bas prix pour satisfaire les besoins populaires à travers la production de machines de l'industrie moderne. Au fur et à mesure, évidemment, que les machines se modernisent, il est possible de parvenir à des produits moins chers qu'on peut distribuer dans la population et qui correspondent à quelque chose de fonctionnel. Et je pense que tout ça, Muñoz Weinraub l'a parfaitement assimilé. C'est pourquoi, justement, il va penser toutes les constructions qu'il va faire en fonction de la situation où il est. Il va construire pour les kibboutzim, il va construire pour les écoles, il va construire pour les hôpitaux, il va construire pour les bibliothèques, pour les clubs, etc. Il y a tout un aspect social, un idéal social de communauté humaine qui est récupéré par Muñoz Weinraub et d'autres architectes à travers l'héritage du Bauhaus. Et ce n'est pas un hasard si Muñoz Weinraub, en 1939, organise une série de conférences pour les ouvriers à Haïfa sur le Bauhaus. C'est tout à fait exceptionnel. Le Bauhaus est à peu près connu, mais puisqu'on parle des archives, on a parlé aujourd'hui beaucoup des archives, eh bien, on a parlé de la mémoire. Mais la transmission de la mémoire, il faut la faire, sinon il n'y a pas de mémorisation. Et le Bauhaus, s'il a été connu au-delà de 1945, c'est tout simplement parce que Gropius a décidé de livrer ses archives dans une ville allemande, à Darmstadt, et puis ensuite ça a été à Berlin. Donc il y a eu les Bauhaus archives. Mais le problème de la mémorisation, c'est que les autres n'étaient pas concernés. Hannes Meyer et Miss van der Rohe. Il y a maintenant des archives Miss van der Rohe qui ont été déposées, qui existent en Allemagne. Mais à l'époque, Hannes Meyer a complètement disparu de la circulation. Il était complètement effacé. Le directeur du Bauhaus Archive se refusait de parler de Hannes Meyer. Alors évidemment, ça a à voir avec tout le côté un peu fumeux qu'avait peut-être Hannes Meyer politiquement, mais voilà, l'utilité des archives, mais des archives qu'il faut manier avec prudence et en les surveillant. Et effectivement, il y a eu un retour du Bauhaus en Europe, mais par le biais des États-Unis. Donc, quand Muñoz Weinraub fait une série de conférences en 1939 au mouvement ouvrier, aux ouvriers sur le Bauhaus, c'est absolument révolutionnaire. Il est revenu par l'intermédiaire des États-Unis dans les années 50, 60, parce que la plupart des anciens enseignants avaient émigré. On a deux images qui sont tout à fait fausses à propos du Bauhaus, c'est schématique en tout cas. C'est la première, c'est qu'on rattache le Bauhaus à des personnalités qui ont enseigné, Klee, Kandinsky, qui avait été appelé par Gropius, et de l'autre côté, par des architectes qui auraient et créer vraiment l'architecture nouvelle au Bauhaus. Ces gens, ils ont construit quoi aux États-Unis ? Des gratte-ciels. Gropius et Miss Van der Rohe ont construit des gratte-ciels, sans tenir compte justement des principes même du Bauhaus qui était l'adaptation aux circonstances, etc. Gropius s'est rendu compte de l'erreur. Et en 58, bon alors il s'était fâché avec Hannes Mayer, hein, évidemment, il avait fait une carrière, c'est très compliqué de parler de tout ça, parce que les rôles personnels sont très importants. Ensuite, Gropius a prétendu que Hannes Mayer ne lui avait jamais parlé de ses opinions politiques et que s'il l'avait su, il l'aurait pas embauché. Bon, alors ils se sont fâchés au moment où il faisait une autre carrière, Gropius. Il voulait pas se couper l'herbe sous le pied. Il était en train de faire une carrière internationale aux États-Unis. Alors, il s'est rendu compte en 58 de tous ces problèmes. Et je voudrais finir en vous lisant justement ce qu'il dit à propos de l'industrialisation. Il rappelle justement que l'un des événements les plus importants dans le développement de l'architecture, c'est la mécanisation. Et aux États-Unis, bon, il devient professeur, il enseigne, et le pédagogue qu'il est se rend compte que il est conduit à des réflexions philosophiques qui sont amères. La spécialisation outrancière a amorti notre faculté d'unifier notre existence complexe. La vie, par conséquent, s'est appauvrie de façon incommensurable. La spiritualité est étouffée par le rationalisme envahissant de l'homme-organisation. L'humanité court le danger de perdre son entité. Notre société a un besoin urgent d'une influence stabilisatrice pour modérer le rythme furieux de la science et de l'industrie. Il est prudent, Gropius. Il aurait pu ajouter le rythme furieux de la spéculation foncière, de la circulation de l'argent. Il ne le fait pas. Et on a là en tout cas un constat qui porte sur l'évolution de l'architecture. Et il devient de plus en plus difficile, effectivement, avec la machinisation croissante. Aujourd'hui, avec tout l'immatériel, on a beaucoup parlé de la numérisation, etc. D'abord, le cinéma est concerné. Hein, le cinéma est concerné, puisque Ehrenburg, l'écrivain soviétique Elia Ehrenburg, parlait en 1932, il a fait un livre pamphlet qui s'appelait « Les usines à fabriquer des rêves », en dénonçant le pouvoir de Hollywood. Aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire à travers toutes les machines qui peuvent exister, toute la machinerie. Alors, Gropius nous suggère au moins une chose, c'est que cette mécanisation n'est peut-être pas autre chose qu'une adaptation à l'évolution des machines elles-mêmes, mais que l'homme lui-même est en perdition. Et il devient de plus en plus difficile de construire sa propre vie, hein, en tant qu'individu, à travers justement toute cette machinisme, cette circulation, cette invention de nouvelles machines, dont il pensait que cela sauverait l'humanité lorsqu'il a ouvert le Bauhaus.
Merci d'avoir si brillamment rappelé les fondamentaux du Bauhaus. Merci Lionel Richard pour cette conférence toujours aussi inspiré. Mon cher Amos, est-ce que nous avons été Bauhaus ? Est-ce que nous avons été construction de la vie pour cette première journée ?
Je crois que dans cette phase, tout est clair. Je vous remercie d'être ici et on donne rendez-vous demain. Alors, je crois que c'est à 9h30. Et après, on monte le film Anna Arabia. Et après, on a des discours de Pierre-Marc de Biasi, de Uzi Eliada, et ma chère fille Keren Mok, qui est brillante. Et après, ça, je suis objectif. Et après, il y a Ashish qui va nous parler de cinéma, Wale, Richard Peña, et on finit avec Jean-Michel Frodon et Naoum Kleman. Alors, je vous invite à nous rejoindre demain. Et merci d'être là, et merci le Collège de France d'accueillir, et merci Lionel Richard. Moi, j'étais très intéressé par ton discours. Et je t'invite, parce que comme j'étais élu artiste associé du Théâtre de la Ville, on va faire calmement une conférence sur le Bauhaus, le cinéma et le théâtre. Alors, tu as un rain check. Et merci beaucoup, Dan Eitan, de déplacer, de venir ici. Dan, il n'est pas seulement architecte, mais intellectuel de cinéma. Et c'est un plaisir d'écouter. Et merci, Michael. Et merci, mon ami Ofra. Et merci à tout le monde. Et à demain. Merci.